toute ta vie en termes d'éducation et pour tout le monde, on nous prépare à aller dans un confort. Être entrepreneur, c'est aller vers l'inconfort et aimer être dans cette zone-là. À ce moment-là, tu te bats avec tes tripes pour gagner ta liberté sur les 30 prochaines années. À un moment donné, enfin, t'arrives pas dans un bâtiment, t'appuies, hop, je vais au dernier étage et je sois le patron, quoi. Le plus important, c'est de bosser et en vrai de dire jamais non, quoi. Les débuts d'une start-up, n'importe laquelle, sont hyper demanding et très très dur. Très dur. Tu travailles tout le temps, tu déconnectes jamais et t'es jamais préparé à ça. Et là, il n'y a rien qui te prépare à ça.
Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com/podcast. Allez, c'est parti.
Paul Lé, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, tu es fondateur de La Belle Vie et qui est une enseigne donc, de livraison de produits frais et de produits généralistes maintenant. Et alors, c'est combien la Belle Vie aujourd'hui en termes de salariés, en termes de références de produits?
Alors, La Belle Vie aujourd'hui, c'est une entreprise de 550 personnes. Okay. Ça fait 6 ans qu'on s'est lancé. En termes de chiffre d'affaires, on va tourner en fin d'année vers les 80 millions de chiffre d'affaires. On n'est qu'en Île-de-France pour le moment. L'idée est d'aller dans toute la France d'ici la fin de l'année et de bien scaler, comme on dit dans le langage startup, l'année prochaine dans toute la France. Voilà.
Alors, c'est quoi la différence, en fait, le concept de base qui est différent par rapport à de la livraison, comme il peut y avoir pour les grands supermarchés qui ont déjà leur service de livraison?
Ouais. Bah écoute, la grande différence, ça va être déjà sur le temps de livraison. À la base, quand on a lancé il y a 6 ans, les services de livraison livraient en 24 heures au mieux, mais plutôt en moyenne sur du 72 heures. Nous, on livre les courses en moins d'une heure sur Paris et avec un même catalogue, c'est-à-dire de 10 à 15 000 produits.
Et comment ça se fait que les autres, il leur faut 2 jours et toi, en 1 heure, c'est à la maison?
Bah,
Elle est où
écoute,
la magie entre les deux?
la secret sauce, c'est qu'il y a plusieurs, il y a deux grands thèmes. C'est-à-dire déjà la logistique, ok? Logistiquement, mes confrères ou mes challengers, peu importe comment on les appelle, ils avaient pour habitude d'installer des entrepôts très loin de leurs clients. D'accord? Si, je te donne un exemple, si tes clients sont à Paris, pour moi, ça faisait aucun sens d'avoir des entrepôts dans les lointaines Yvelines. Okay? Parce que mes clients étaient à Paris. Donc déjà, j'ai installé des entrepôts qui étaient près de mes clients, donc au commencement à Paris. Ça, c'est une première chose. Donc avoir un maillage logistique qui soit près de tes clients. La deuxième chose, c'est une organisation orchestrée par logiciel. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, en lançant la logistique, en lançant le site internet, on s'est aussi penché sur tout ce qui est logiciel logistique, c'est-à-dire ce qu'on appelle des warehouse management system, des order management system, enfin tout le ERP qui fait qu'aujourd'hui on peut orchestrer une logistique très pointue et de livraison avec une très grande vélocité.
Alors attends, mais c'est déjà sur les entrepôts. Si les autres, ils se mettaient à Pétaouchnok à côté du périph,
Ouais.
c'était pas innocent non plus, c'est parce que là-bas, c'est pas cher, les mètres carrés.
Là-bas, c'est pas cher le mètre carré, effectivement. Ça, c'est une chose. Mais nous, on a décidé d'avoir des surfaces un peu plus réduites. Donc, eux ont potentiellement des surfaces de 15, 20 000, 30 000 mètres carrés. Où nous, on est plutôt sur du 1000, 1500 mètres carrés. D'accord? Et à l'intérieur, on essaie de surbooster et faire en sorte que l'entrepôt soit le plus efficient possible. C'est-à-dire, déjà, avec des produits qui sont tout le temps en stock, avec une logistique qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Finalement, avec cette logistique-là, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir autant de produits qu'eux, et avec un service de livraison qui est beaucoup plus rapide, donc une expérience client qui est améliorée et une satisfaction client qui est au-dessus de la moyenne.
Donc, tu as moins de mètres carrés au global que.
J'ai moins de mètres carrés au global, mais une performance qui est tout
Égal.
égale.
Et que c'est combien à peu près le différentiel de mètres carrés? Tu en as la moitié moins, tu en as.
Bah, en termes de produits, on a l'équivalent, c'est-à-dire entre 10 et 15 000 produits, mais en termes de surface, on est, je crois, à peu près 10 fois inférieur.
Ah oui, donc du coup, tu peux payer entre guillemets 10 fois plus cher le loyer des entrepôts parce qu'ils tournent 10 fois plus vite, quoi.
Dans l'idée, c'est ça, ouais.
Dans le rapport. Ouais. Et l'autre chose, comment ça se fait qu'eux, ils ne sont pas aussi performants que toi sur les mètres carrés? Parce que les entrepôts logistiques, c'est un grand coût de logiciels. Il y a des robots qui prennent, qui chargent. On pense aux entrepôts Amazon là, qui sont suroptimisés. Ouais. Comment ça se fait que toi, tu arrives encore à faire 10 fois mieux?
Potentiellement parce que le retail classique était concentré sur ce qui fait aujourd'hui leur richesse première, c'est-à-dire les supermarchés, les hypermarchés. Tout le focus était plutôt en train de développer ce qu'ils savaient déjà faire. Après, sur le digital, c'était la poche, pourquoi pas, de ces retails. On va tester et ils n'ont jamais fait les choses très sérieuses jusqu'au jour où des acteurs comme nous on pris cette verticale-là et on allait très profond dans la compréhension de ce système-là. Et avec notre petite taille, notre agilité, on a réussi à grappiller des points de marché un peu plus vite que les autres.
Donc, tes entrepôts, ils sont fondamentalement pas organisés pareil parce qu'eux, ils livrent des grandes surfaces. Enfin, ils travaillent avec des grands… Non. Alors que toi, c'est des mecs en scooter qui viennent…
En fait, fondamentalement, on n'est pas organisé de la même manière. Juste parce que le métier de la livraison de courses ultra rapides et sur le dernier kilomètre, c'est un métier qui n'existait pas il y a 6 ans. C'est un métier qu'on a inventé nous en France. Il n'y avait personne d'autre.
Et du coup, pour les produits frais, ça marche parce qu'une des grandes limites de se faire livrer à 72 heures ou à 48 heures, c'est les produits frais.
Bah, en fait, c'est une problématique que l'on gère plus facilement. Parce que le matin, on reçoit les produits et toute la journée, on les écoule et c'est comme ça tous les jours. Et effectivement, bah, garder des produits frais longtemps dans les frigos, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que sur ces sites-là, tu as beaucoup moins de poissons frais, de belles viandes, de produits de boulangerie. Parce que leur logistique, en fait, c'est la logistique de stockage et de stockage avec très peu de rotation. Où nous, c'est une logistique de stockage, mais avec des rotations extrêmement fortes. Titre comparatif, tu vois, un hypermarché, le taux de rotation de tout son stock, d'accord, c'est 3 fois par an, d'accord. Nous, notre rotation de stock, d'accord, c'est 52 fois par an.
Ah, et chaque semaine, donc s'il y en a un, c'est au trimestre et toi,
on
c'est à la semaine.
On a un stock qui est très petit et très véloce.
Ah, et ça, du coup, c'est pour ça que tu es plus efficient. Et ensuite, derrière, c'est des gars en scooter qui viennent livrer, c'est quoi, c'est le modèle un peu des… L'uberisation, enfin, c'est des petits livreurs avec ouais. Un.
C'est pas de l'uberisation parce que nos livreurs, c'est pas un coup ils vont faire du Uber Eats, un coup ils vont faire du Deliveroo. C'est des livreurs qui sont dédiés pour notre service logistique. D'accord? Donc, ils travaillent tout le temps pour nous et que pour nous. C'est-à-dire que leur travail, c'est de prendre les commandes de notre entrepôt chez le client. OK? Et ça, toute la journée. Donc, c'est des livreurs qui sont dédiés pour la belle vie.
Ils sont salariés?
Ils sont salariés de leurs prestataires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des prestataires de livraison, des sociétés, d'accord. C'est comme une SS2I qui te met un informaticien à disposition dans ton bureau. Nous, ça va être des livreurs. C'est quelque chose qui est en train de changer puisque la taille de l'entreprise est assez importante aujourd'hui pour avoir un service de livraison qui est propre. Donc ça, c'est sur les 10 prochains mois, on aura des livreurs en interne, ok. Après, sur le type de livraison, il y a de tout. Il y a du vélo, il y a du scooter, il y a du camion, il y a de la voiture. Et ça, c'est en fonction des différentes tournées que l'on envoie. C'est-à-dire que si on a besoin de véhicules légers, parce qu'on sait que sur typiquement dans le 9e arrondissement, il n'y a pas de place pour se garer, c'est toujours bouché, là, on va plutôt avoir tendance à envoyer des gros scooters avec des gros top cases.
Et ça, c'est le système qui
ça, c'est le logiciel et l'algorithme qui va décider de quel véhicule va aller dans tel ou tel endroit.
Si c'est dans les rues piétonnes de Montmartre, on n'envoie pas le camion, quoi.
C'est logiquement, c'est ça, mais ça dépend quelle rue, mais ça peut logiquement, dans l'idée, c'est ça.
D'accord. Et du coup, comment t'as créé justement cette entreprise pour arriver à faire 80 millions? Ça date de quand, la création?
Donc, ça fait 6 ans. Donc, on est une entreprise qui, historiquement, a toujours doublé de chiffre d'affaires tous les ans.
voilà. Tranquille.
On a commencé de manière extrêmement lean, c'est-à-dire qu'on a commencé petit, on n'a pas commencé avec des gros entrepôts.
Alors, lean, ça veut dire quoi?
Lean, on a itéré énormément. C'est-à-dire qu'avant de trouver le modèle qu'on a aujourd'hui de 1500 m², on a testé des petits entrepôts de 100 mètres carrés, plus de 400 mètres carrés, avec un catalogue de 1000 produits, 2000 produits, 6000 produits. Et aujourd'hui, on pense qu'on est dans le vrai sweet spot, c'est-à-dire c'est vraiment la meilleure offre en termes de produits et en termes de services qui correspond à la demande. C'est-à-dire 10-15 000 produits livrés dans l'heure. Et ça, c'est ce que les gens apprécient. Et c'est aussi ce qui fait une entreprise rentable, parce que c'est aussi ça dont vous parlez. C'est-à-dire qu'avoir des petits stocks avec très peu de références et donc des petits paniers moyens, ben, atteindre la rentabilité, c'est un peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est plus compliqué.
Et donc les marges sont plus faibles.
C'est pas une question de marge, c'est une question de panier moyen. C'est-à-dire que si tu as un panier moyen de 100 euros et que tu marges 30%, bah, tu vas gagner 30 euros, d'accord. Mais si tu as un panier de 10 euros, d'accord, moyen, bah, ta marge est 3 euros. Donc sur chaque commande, bah, tu préfères gagner 30 euros ou 3 euros. Tu vois, la question, elle est vite répondue.
Et du coup, donc il y a 6 ans, donc ça nous amène en 2015,
ouais.
Tu démarres comment?
Je démarre dans une cave, enfin presque une cave, c'est un fleuriste. On a démarré dans le premier arrondissement en face de la Banque de France, un petit fleuriste qui laissait son local. C'était un 100 mètres carrés avec un souplex, avec des voûtes, c'était très charmant. Ça n'avait pas du tout la gueule d'un entrepôt, mais on est arrivé, on a mis des frigos et des étagères. On a commencé avec 2000 produits achetés pour la plupart chez Metro pour tester. Et grosso modo, là, on est en juin 2015.
Donc là, tu testes le process de livraison parce que tu achètes
exactement,
chez,
c'est exactement
à la métro
ça.
Et du coup, c'est un
au début, on teste uniquement le process de livraison et on teste le métier, comment livrer pour essayer de comprendre les grands principes de la livraison des derniers kilomètres de produits frais.
Vous êtes combien là, à faire ça?
À cette époque-là, en juin 2015, on devait être une petite dizaine.
Oui, quand même. Ouais. Donc, faut déjà. On parlera comment tu lances une boîte avec une dizaine.
Petite dizaine, voilà. Il y a quand même des livreurs, des préparateurs. Voilà. Mais après, sur la strate, il y avait que mon associé et moi.
D'accord. Mm. Et du coup, vous êtes une dizaine dans, dans la cave.
Dans la cave, on reste là-bas pendant 2 ans et demi. On explose la cave. Genre, on l'explose. C'est-à-dire que les voisins, je pense qu'on serait resté 6 mois de plus. Quelqu'un aurait brûlé le local, je pense.
Parce que
vraiment, on l'a dégommé. C'est-à-dire que t'imagines, on était dans 100 mètres carrés. Aujourd'hui, notre modèle, c'est 1500 mètres carrés. Donc, enfin, le local était largement trop petit pour l'attractivité. Et on doublait de chiffre d'affaires tous les ans. On commençait à avoir des chiffres d'affaires assez sympas.
C'est combien au bout de 2 ans?
Je pense qu'au bout de 2 ans, on était pas loin du 2-3 millions.
Avec 100 mètres carrés de stock.
Ouais. Donc, c'était assez fou. Et puis on déménage de fin 2017, début 2018. On va dans un entrepôt un peu plus grand qui fait quasiment 400 mètres carrés, donc on quadruple la surface. Et où on passe de 3000 produits à 5-6 000 produits. Et là, on y reste 1 an et demi. Ouais.
Dans 100 mètres carrés, tu avais 3000 références?
Dans 100 mètres carrés, ouais, on avait 3000 références.
Ouais. Ah, donc ça, en gros, il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient toutes les 5 minutes, quoi.
Ben, c'était ça, c'était
plus un hall d'immeuble, c'était un hall de gare.
C'était un fleuriste et c'était effectivement assez fou. Mais beaucoup de nostalgie quand j'y repense, ouais, ça c'est cool. Moi, ça me manque, moi. Ouais, c'était fou.
Parce que comment t'as créé ça avec ton associé à la base?
À la base, c'est une vraie idée de mon associé, c'est-à-dire que lui, c'est quand même un passionné de bonne bouffe. Il vit loin, en fait, il vit vers Mille-la-Forêt. Donc du coup, l'accès à des produits et accès aux services de livraison, c'est un peu plus compliqué. Donc il voit qu'il y a un vrai problème. Quand il commande, bah, les produits ne sont pas forcément frais, il y a un petit catalogue. Donc l'expérience n'est pas ouf. Et il se dit, mais pourquoi pas révolutionner ça? Et c'est là qu'il m'appelle, il me dit, j'ai une super idée. Moi, je trouvais ça assez cool. Je voyais que le marché de l'alimentaire, de toute façon, c'est le marché le plus grand du monde et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps, quoi. Enfin, on mange tous 3 fois par jour et on aime bien manger, on aime bien prendre le temps de faire des bons repas à la maison. Enfin, voilà, c'est inépuisable. Donc, je vois ce potentiel-là et je vois qu'il y a un vrai pain dans l'offre actuelle, c'est-à-dire que c'est pas ouf. Et je me dis, bon, bah, c'est une belle opportunité et puis ça a l'air marrant.
Et vous vous connaissez d'où à la base?
C'est mon ancien boss. J'ai travaillé pour lui il y a 12-13 ans. Lui, c'est un vrai génie, c'est-à-dire qu'il a lancé sa boîte à 18 ans, il l'a revendue à 28. Et j'ai commencé à travailler avec lui. On a le même âge, donc quand on avait 26-28 ans, il a vendu à un grand groupe qui s'appelait à l'époque Rentabiliweb. Qui était qui à l'époque le fleuron de l'internet en France.
C'est de la pub, ça, non?
C'est de la pub, ouais. C'est de la pub, puis après, c'est devenu un processeur de paiement. Donc, il y a eu une espèce de pivot comme ça qui a très bien marché d'ailleurs. Donc, il vend à ce groupe-là, et moi, je travaille chez Rentabiliweb pendant 2 ans. Ça se passe plutôt très bien.
En tant que?
En tant que marketing manager. Donc, je faisais du marketing et j'avais justement participé au lancement du pivot de l'entreprise, qui est passé d'une boîte qui monétisait l'audience, donc qui faisait de la publicité en ligne, à un processeur de paiement, donc qui monétisait les sites internet, voilà, les sites e-commerce, donc avec des agréments Banque de France et ce genre de choses, c'était vraiment quasiment une banque. Et je reste 2 ans et puis je lance ma première boîte d'application mobile qui a plutôt correctement marché et où mon associé était investisseur. Et au bout de 3 ans, on sent que j'ai atteint une espèce de plafond de verre avec ma structure.
Qu'est-ce qu'elle faisait, cette appli?
Alors, j'avais 3 applications mobiles, donc c'était tout très simple. La première, elle permettait de trouver ton fast-food préféré dans le monde entier, qui s'appelait Hungry Now. La deuxième application permettait de trouver ta station essence quand tu es en galère et de comparer les prix de l'essence, s'appelait Gasol Now. Encore aujourd'hui, c'est l'application leader dans le comparatif des stations essence. Et la troisième application te permettait de trouver ton distributeur de billets n'importe où dans le monde. Voilà. Donc, ça a plutôt bien marché. Ça a duré 3 ans, mais le business model et la structure de l'entreprise ne m'a pas permis d'assouvir mes ambitions de mégalomane. et donc, du coup, avec mon associé d'aujourd'hui, on a décidé de lancer cette boîte ensemble. Et ça fait 6 ans aujourd'hui.
Voilà. Parce que pendant cette période où tu développes tes applications, vous êtes en lien et lui, il fait autre chose.
Ouais, ailleurs, il fait autre chose ailleurs. Il lance aussi un projet de start-up qui vivote, enfin voilà. Et en fait, ces 3 années d'entrepreneuriat pour moi et pour lui aussi de cette seconde start-up là, enfin, nourrit une conviction qui est, enfin, entreprendre c'est super, mais à plusieurs et partager une vision et le quotidien, les bons moments et les moments un peu plus difficiles ensemble, c'est beaucoup plus cool, quoi. Et associer 2 mecs qui ont beaucoup de gaz et beaucoup d'ambition, ça peut être sympa.
Et du coup, c'est pour ça que lui, il a eu une idée. Il se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut faire ça, il faut livrer en 1 heure.
Bah, il a l'idée, voilà, il a beaucoup d'idées. Et cette idée-là, je la trouve top parce qu'il y a déjà un marché, d'accord? Quand tu lances une entreprise et qu'il n'y a pas marché, c'est un peu compliqué. Là, il y avait un vrai marché. Tu avais des acteurs qui sont là depuis des dizaines d'années qui n'ont pas réussi à percer le truc. Pourtant, on sent tous qu'il y avait un besoin. Donc, on s'est dit, bah, voilà, bingo, on va essayer de se challenger sur ce terrain-là. Et pour l'instant, c'est plutôt une bonne idée encore.
Voilà. Oui, parce qu'en fait, quand tu crées ton entreprise, soit tu essayes de faire un nouveau concept, une nouvelle idée, il faut convaincre les gens avec des nouvelles habitudes, ou alors tu vas sur un marché qui existe déjà et tu te dis, je vais juste faire mieux que les gars qui sont déjà là, quoi.
Ouais, il y a de ça, mais de toute façon,
les gens sont déjà convaincus qu'il faut qu'ils mangent, quoi.
Il y a de ça, à part l'informatique, l'internet et la blockchain. Enfin, il n'y a pas forcément de grande innovation mondiale. Hein. Enfin, Uber, c'est juste parce que on a mis dans l'application mobile des gens qui font du transport d'un point A à un point B. Enfin voilà, et nous, le marché existe déjà. C'est juste qu'il faut le consolider, utiliser la technologie pour le rendre plus performant, plus véloce. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et voilà.
Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape là pour l'entreprise?
Bah, la prochaine. 80
millions, ça commence à faire.
On va finir avec ça, donc c'est l'objectif, mais on est bien parti. Donc si des gens regardent cette vidéo là en décembre, bah, faudra poser la question, mais j'espère avoir atteint ces chiffres-là en décembre. La prochaine étape, c'est toujours de faire grandir sa boîte. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est évidemment essayer de challenger ce produit qui est très francilien. Donc, aujourd'hui, on est en Île-de-France et essayer d'aller le challenger dans d'autres régions françaises.
Parce que c'est quoi ton rêve d'entrepreneur à la base? Pourquoi est-ce que tu te casses la tête à te lever tous les matins en disant je veux monter une boîte, je veux... Parce que là, c'est sympa, ça a réussi. Mais avant, on sent bien qu'il y a quand même dû y avoir deux, trois étapes pas simples à gérer. Et puis les idées, il faut se remettre en cause. Et puis il faut se re... C'est quoi ton moteur? Pourquoi ça? Plutôt bah, que chef manager, marketing?
Non, mais ça, c'est des questions... question de personnalité, c'est-à-dire que je suis papa, peut-être toi aussi, tu es à 18 ans, il faut dire aux enfants d'aller travailler. Quoi. Et à un moment donné, il y a travailler et travailler. Moi, je ne voulais pas travailler, je voulais m'amuser. Donc moi, j'adore m'amuser. Et finalement, dans une entreprise classique, je pense que je suis assez ingérable parce que j'ai besoin de liberté. Voilà. Et au lieu de me faire virer, j'ai décidé de devenir mon propre patron et puis d'être libre tous les jours de faire ce que j'ai envie et de rendre de compte ou très peu de compte à personne. Donc la voie de l'entrepreneur était assez normale.
Tu n'avais pas le choix, quoi. Sinon, c'était trop compliqué.
J'ai pas le choix, c'était soit ça ou soit je devenais fou. Hein. Donc,
mais qu'est-ce qui te rendait fou en tant que salarié?
Évidemment, tous les cycles de décision à tout niveau, quand tu as une opportunité qui te paraît, quand tu travailles dans le business, quand tu vois une opportunité qui te paraît assez grosse ou des messages à faire passer, tu vois, un projet qui te pense légitime et normal pour la boîte pour laquelle tu travailles parce que tu te dis c'est là où il faut aller. Et que finalement, tu ne peux pas, c'est assez frustrant. Quoi. Quand tu as des bonnes idées et tu ne peux pas les appliquer, c'est compliqué. Quoi. Voilà. Donc, moi, j'aime avoir des idées, et mon associé aussi, on aime avoir des idées et les appliquer. Souvent, ça ne marche pas. Voilà. Mais quand ça marche, c'est assez satisfaisant. Quoi. Voilà. Donc, entrepreneur, c'est aujourd'hui le seul métier que je connais qui puisse te procurer ce plaisir.
Et dans la structure même, en fait, quand tu étais salarié, est-ce que la hiérarchie, la façon, les collègues, le relationnel, est-ce que ça ne te posait pas de problème ou...
Non, ça ne me posait pas de problème. J'étais plutôt facile en société. Donc, je m'entendais très bien avec mes collègues. Évidemment, j'ai toujours travaillé au début de ma carrière dans les petites structures. Donc, je parlais très vite aux fondateurs, en tout cas aux décisionnaires. Quand tu intègres une structure plus grande d'une centaine, 200 salariés, c'est un peu plus compliqué et les différents layers de management et de décision t'étouffent à un moment donné. Trop bureaucratique, évidemment. Et aujourd'hui, dans ma structure, j'essaye de ne pas avoir ces structures pyramidales et j'essaye vraiment d'être...
Alors justement, c'est là que je voulais en venir. Comment est-ce que tu fais avec tes, avec tes employés et ton organisation pour ne pas retomber dans les mêmes vices? Parce que là, vous êtes 500, donc 500, tu as peut-être encore connaître les prix encore. Les
ouais, ça commence à être difficile, effectivement. Mais,
t'en vois plus les cartes d'anniversaire à 500.
Quoi. Non, on fait l'effort. L'organisation aujourd'hui, évidemment, je vais parler à mes head-off et mes managers la plupart du temps. Parce que c'est les personnes en charge des différentes verticales dans l'entreprise. Mais tout le monde sait que ma porte est ouverte et je réponds à tout le monde et je parle vraiment à tout le monde. Hein. Tous les jours, il y a des préparateurs de commandes qui m'envoient des messages, qui me parlent.
Pour dire quoi ?
Parfois, pour me demander de valider les congés, je fais ça. Par contre, ce n'est pas moi qui vais valider ça. Parfois, certains, on travaille avec beaucoup d'étudiants. À temps partiel, certains ont des super idées sur des produits parce qu'ils ont étudié ça en classe, donc ils vont me les exposer et j'adore. J'ai certains qui cherchent des alternances, besoin de recommandations pour aller postuler chez des confrères et juste parfois me remonter des problèmes qu'ils ont au quotidien et ça c'est très important. Je sais pas, des préparateurs qui disent je préfère travailler avec tel sac, c'était mieux avant. C'est souvent assez pertinent. Voilà. Et en tout cas, il ne faut pas être hautain et il faut toujours être à l'écoute de ses collaborateurs parce que c'est important d'écouter des personnes qui ont envie de faire améliorer l'entreprise. Parfois, c'est des choses évidemment auxquelles tu as déjà pensé, mais qu'ils aient cette idée-là, est-ce qu'ils aient cette envie de faire progresser l'entreprise, enfin, personne ne devrait leur dire le contraire et leur dire que ce n'est pas une bonne idée, quoi. Donc, c'est important.
Et justement, comment, peut-être que tu as réfléchi à ces choses-là, mais comment est-ce que la hiérarchie peut ne pas être un poids, mais un soutien, en fait? Par exemple, le gars qui veut changer de sac pour
Ouais.
ses... Pourquoi il ne peut pas le faire directement dès l'instant que dans un cadre défini? C'est-à-dire, comment arriver à donner l'initiative à ceux
Ben
qui
parce
font en
qu'en
disant...
général, déjà, ils travaillent sur une certaine, sur des tâches particulières. Et avant de le mettre sur d'autres tâches, s'assurer qu'il les fasse bien. Si on veut le mettre quelque part d'autre, s'assurer que ben, c'est un poste où il y a un vrai besoin. S'assurer aussi qu'il y a un remplacement sur son poste. Donc, c'est assez compliqué de le changer au jour le jour, d'un jour à l'autre, pardon. Donc, Et s'il y a des bonnes idées qui sont. Et c'est quelqu'un qui répète des bonnes idées et qui s'imprègne bien dans la boîte et qui a envie de progresser, on va essayer de lui trouver la bonne place. C'est quelque chose qui est assez naturel. Mais on ne peut pas changer l'organisation d'un jour à l'autre parce que sinon tout s'écroule.
Il y a combien de degrés de hiérarchie entre toi et le livreur?
Il y a combien de degrés de hiérarchie?
Ouais. Il y a combien de chefs entre...
Deux.
T'es
Voilà.
le N plus 2 de tout le monde?
J'essaie d'être le N0 de tout le monde. Donc ça, c'est donc être à l'écoute de tout le monde. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre un entrepreneur et un manager. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que je suis un bon manager? Je crois pas. Hein. C'est pas mon truc, tu vois. Mais un bon entrepreneur, j'espère. Voilà. Et être une bonne personne, je le souhaite vraiment.
Et alors toi, d'où tu viens? Parce que tu as une histoire quand même un peu particulière et j'aime bien toujours remonter aux origines pour comprendre comment on peut devenir entrepreneur, comment ça arrive.
Eh ben écoute,
Donc d'où tu viens toi?
je viens du ventre de ma mère déjà, comme beaucoup de monde. Ma mère qui est arrivée en France fin des années 70, début 80 avec mon père.
Donc elle était où ta mère quand...
Ils étaient au Vietnam
D'accord.
avec un petit passage en Inde pour fuir justement la guerre du Vietnam. Donc c'est des gens qui ont vécu la guerre, sont arrivés au début des 80 comme beaucoup de Vietnamiens. Leur rêve assez simple à l'époque, c'est d'offrir un toit simplement à leurs enfants et peu importe où, d'accord? Et plutôt dans un endroit qui était safe. Et à l'époque, l'image de la France c'est un pays d'ouverture, c'est un pays qui est très social, donc qui fait attention à ses enfants, ok? Donc on atterrit, enfin ils atterrissent en banlieue parisienne. Donc à l'époque, bah, c'est le grand changement en Île-de-France. T'as cinq grandes villes nouvelles qui poussent, Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise, etc., etc. Moi j'atterris mes parents atterrissent à Évry, donc à Évry dans l'Essonne.
Et comment ça se passe quand tu dis on atterrit, c'est-à-dire que tu arrives, tu es réfugié de guerre, c'est
Voilà.
ça?
Bah moi je suis pas encore né, donc eux ils arrivent, ils sont
D'accord.
effectivement réfugiés. Et la France est une belle terre d'accueil et elle doit le rester, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais elle doit. C'est sa place dans le monde. Donc ils arrivent début des années 80, pardon, réfugiés, et puis ils se mettent au travail, c'est-à-dire ils trouvent un toit et puis ils vont travailler. Donc mon père, au début, il lave des voitures pour les.
Il faisait quoi avant au Vietnam? Son
Alors,
métier de base
son métier de
son...
base, tu sais, il est parti quand il avait probablement enfin, 25 ans et il a commencé à travailler à 14 ans. Donc, il n'y a pas de métier, tu vois, là-bas, c'est la débrouille. Donc, faut nourrir, faut avoir un peu d'argent, il n'y a pas de
D'accord.
métier. Mais il avait un beau babou, je pense, donc ça, c'est cool. Et il était très marchand, donc ça a toujours été ça, c'est un marchand. Donc, c'était un bon vendeur. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un super commercial, un super business développeur ou bien un entrepreneur parce qu'il l'a été.
Donc il
Voilà.
arrive et il lave les bagnoles
Ouais,
pour
c'est
le
ça.
premier
Donc
job, quoi.
c'est l'histoire qu'on m'a racontée de lui, hein, évidemment. Mais il commence à laver les bagnoles et puis il trouve un job d'homme de ménage la nuit à l'usine Lu.
En plus des voitures la journée.
Belin d'ailleurs. Avant d'être lui, c'était Belin. Et Ré s'enregistre, donc à côté d'Evry. Donc il a arrêté les voitures, donc là, et la nuit, il travaillait de nuit au SMIC à l'époque, hein, donc c'est 6000 francs, tu vois. il lave les machines, et puis ma mère trouve un boulot de femme de ménage et cuisinière dans un foyer pour personnes atteintes de polio. Et là, pendant toutes ces années-là, bah, moi je suis né en 82, et donc voilà, on grandit là-dedans, quoi. C'est-à-dire, papa qui travaille la nuit, il vient me chercher à l'école, puis j'avais le travail de ma mère, tu vois, j'ai vu des personnes handicapées, tu vois, c'était normal, et c'était cool. Et puis vers l'âge de 6-7 ans, il y a un shift qui se fait. Mes parents investissent dans un restaurant à Évry, quartier des Pyramides, et qui existe encore. Donc aujourd'hui, c'est le plus vieux restaurant de la ville d'Évry, tu vois.
Ça, c'est donc cool. Pendant 6 ans, ils économisent et après, ils investissent dans un restaurant.
Ils investissent parce qu'eux, ils se disent, bah, ils doivent nourrir 4 enfants. à un moment donné, il faut un peu d'argent. Et puis surtout, ils avaient cette âme d'entrepreneur, quoi, tu vois, et de bosseur. Juste bosseur, tu vois. Parce qu'en vrai, quand tu viens du Vietnam, quand tu... Enfin, il n'y a pas de métier, quoi. C'est la débrouille. Enfin, tu essayes de te faire un truc pour gagner de l'argent. Donc, en vrai, tout le monde est entrepreneur là-bas. Et donc, elle ouvre ce restaurant-là. Et, donc, mon père travaille la nuit et va aider ma mère au restaurant la journée. Et voilà. Donc, je pense qu'inconsciemment, ça nourrit les enfants, leur esprit, tu vois. Ou dans la vie, rien n'est donné. Il faut prendre des risques. Il faut bosser. Voilà. C'est la base de tout. Et faut faire les choses bien. Donc, quand tu as des clients qui rentrent, il faut qu'ils sortent contents. Voilà. Et voilà. Et puis, quelques années plus tard, l'usine Belin, rachetée par Lu, ferme. Je devais avoir, je sais pas, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais heureusement que mes parents avaient un restaurant, puis deux. Et parce que voilà, en vrai, pour beaucoup, quand cette usine-là de, je sais pas, 2000 personnes ferme, c'est une catastrophe, tu vois. Ils disent, je suis au Pôle emploi, machin, etc. Et mon père, à cette époque, il roule en Mercedes, quoi. Tu vois, c'était l'homme de ménage qui arrive en Mercedes. C'est pas classique. Mais en vrai, c'est juste normal, tu vois, quand tu bosses jour et nuit, de te faire plaisir, tu vois. Et le plaisir, pour nos parents, c'est pas partir à Saint-Tropez, quoi. C'est avoir des enfants en bonne santé, à l'école, qu'on ait des bonnes notes et de temps en temps, un truc matériel, quoi. Ils vivaient dans un HLM, pour eux, que ce soit un HLM, une maison, c'est un toit. Tu vois,
il n'y a pas cette volonté de sortir d'Evry, parce que Evry, c'est quand même pas le plus simple pour travailler. En termes d'ambiance, c'est quand même assez cool.
Bah écoute, ouais, on est dans les années 80, 90, effectivement, c'est les banlieues dures. Tu vois, Evry, on en parle en mal parce que tu as une grosse cité qui s'appelle les Pyramides, qui n'arrête pas de se fighter avec tout le monde. Nous, on est dedans. En vrai, on est content parce qu'on a nos potes et tout, donc on a la banane, tu vois, on ne se rend pas compte. Mais avec du recul, évidemment, moi, j'ai des enfants, j'habite toujours pas loin de là-bas, mais avec du recul, je sais que j'ai vu des choses qui ne sont pas normales pour des gamins, quoi.
C'est-à-dire ?
J'ai du trafic, des viols, des coups de feu, des couteaux, des armes à feu, tout ça, tu vois, quoi. Mais tu le vois, tu le touches parfois, tu vois. C'est pas normal d'être un gamin à 15 ans et toucher un revolver, quoi. Voilà.
C'est pour ça que tes parents, ils n'ont pas eu l'envie de dire, bon, allez, on se casse, on
non,
va en Savoie.
Ils ont une super idée, et encore mieux que de se casser, c'est déjà de ne pas fuir, et surtout, ils ne le savaient pas. Je n'ai pas dit à papa, j'ai un flingue. Hein. mais c'est surtout, ils ont la meilleure idée qui est possible, c'est-à-dire bien éduquer ses enfants, quoi. C'est quand même une question d'éducation. Et te montrer comment on doit être dans une vie. Et ça, que tu habites à Versailles, Cergy-Pontoise et à Évry, enfin voilà.
Ils n'ont jamais eu de problème de casse avec le restaurant.
Jamais.
Parce que comment ils tissent le relationnel avec les gens qui foutent le bordel, quoi,
c'était mes amis. Donc, il n'y avait pas de raison qu'ils foutent le bordel. Enfin, j'étais au collège avec eux, enfin, au lycée. Enfin, j'étais pas un enfant à problème. Bon voilà, ils savent que c'est le restaurant des parents et il n'y a aucun con qui va dire je vais braquer les parents de Paul, quoi. Ça n'existe pas encore aujourd'hui d'ailleurs.
Ils sont toujours là-bas ?
Ils sont toujours là-bas.
Ils bossent toujours là-bas,
ouais.
D'accord.
Ouais.
Donc, d'accord, d'accord. Et du coup, toi, tu grandis là-dedans et au final, tu te fais ta place et tu pars.
Je me fais ma place, j'en souffre pas. Je suis un enfant normal, je vais au collège, je fais du sport. Enfin, voilà. Il y a un extérieur qui est pas normal, d'accord, mais qui fait partie, qui est juste la mauvaise conséquence de ces villes-là qui étaient au début extrêmement utopistes. Hein. Tu regardes la picture de ces villes-là, c'est magnifique. Hein. C'est le mix social. C'est tout avoir en bas de chez toi, des centres commerciaux, etc. Enfin, c'est magnifique, hein, c'est les États-Unis. Hein.
D'ailleurs, quand ils les ont construits, c'était vraiment le top de la modernité.
Ah, bah oui, c'était le top. Encore aujourd'hui, c'est des appartements, c'est des duplex, triplex. À Paris, tu prends un truc comme ça vaut 1 million d'euros, quoi.
Et c'était les premiers appartements à avoir des salles de bain dans les années 60.
Exactement. Salles de bain, duplex, véranda, etc. Ouais. Enfin, c'est des super appartements. Mais voilà, ça a été à un moment donné la zone, ça l'est moins, parce que l'État a quand même fait des efforts. Mais moi, je me rappelle, les années 80, c'est le mix social, quoi. Tu traînes avec l'enfant du docteur, le juif, le machin. Enfin, c'était trop bien. Tu vois, tu pouvais. Et puis, à un moment donné, ça a basculé dans la violence, l'ultra-violence. Mais bon, voilà. Enfin, c'est encore une fois, hein, si tu as un cadre parental et d'éducation qui tient la route, tu t'en sors, quoi.
Et toi, à l'école, tu fonctionnais comment?
Je fonctionnais à l'affect, évidemment.
Ça marchait bien à l'école ?
Il y avait des matières où j'excellais et d'autres où j'excellais pas. Et en fait, c'est un peu comme ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. Je fais ce qui m'intéresse. Voilà. donc, avec le recul, c'est exactement ça. Si tu avais un prof qui arrivait à me passionner une matière qui était passionnante, je pouvais exceller, mais vraiment exceller. Et par exemple, en histoire géo, j'ai eu 20 sur 20 au bac, quoi, tu vois. Mais bizarrement, j'ai eu 5 en maths. Voilà. Mais je pense pas avoir un cerveau illogique. C'est juste que le prof, sa tête a me saoulé, quoi.
Ah, tu marchais à l'émotion.
Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect. C'est-à-dire que j'ai envie de faire les choses avec les gens que j'aime bien. Voilà. Et leur rendre. Voilà, tout simplement. Chacun est un peu différent, mais moi, c'est ça.
Et du coup, t'arrives à avoir ton bac?
Ah ouais, j'arrive à avoir mon bac,
ouais. Enfin, je veux dire, ça se passe tranquillement.
Ça se passe tranquillement. Franchement, j'ai une enfance normale. Les bulletins de notes que tout le monde connaît peut mieux faire. Voilà. donc voilà, ça.
N'exploite pas son potentiel.
N'exploite pas son potentiel, bavarde trop, machin, etc. Enfin voilà, tu vois, mais c'est normal. Enfin, tu vois, c'est trop bien. En vrai, j'avais la moyenne 10 et c'est parfait. Tu vois, ça veut dire que je faisais l'effort pour avoir la moyenne et à côté de ça, j'ouvrais mon esprit à plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Enfin,
Tu faisais plein d'autres choses.
Moi, je faisais beaucoup d'informatique. Mais j'étais le rare à cette époque-là, au début des années 90, à avoir un ordinateur et Internet. Je passais ma vie dessus.
Mais il n'y avait rien. Ta vie sur quoi dans fin 90,
92-93,
quand ça va. Mais 92-93, il y a quoi sur Internet?
Yahoo.
Ouais, mais Yahoo, il y a qui
Yahoo, des liens hypertextes, machin, etc. T'as les annuaires. Et puis d'un coup, vers 96, tu commences à avoir la DSL. Tu commences à avoir des sites comme Multimania. Et puis après, Caramel, machin, etc. Et puis tu commences à avoir le peer-to-peer.
Caramel, je suis d'accord. Mais 92, 96. Yahoo.
Moi, mon adresse Yahoo date de 93.
Ouais, mais tu cherches quoi sur Yahoo? Il n'y a pas de site.
Non, mais tu lis. Tu cliques. Et puis après. Tu passes de lien à lien, c'est l'hypertexte. Tu vois, ça, c'est une putain de révolution, l'hypertexte. Tu vois, tu lis, voilà, je lisais ce que j'avais envie de lire, c'est-à-dire que j'étudiais ce que j'avais envie d'étudier.
Et tu trouvais quoi?
Ah, moi, je trouvais l'informatique, je lisais beaucoup d'articles sur la politique, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais pas, il y avait les forums, je sais pas, je passais mon temps sur. Les forums, je lisais, je rigolais, on chattait. Enfin voilà, c'était une époque assez cool.
Où... Coder un peu HTML, tout ça, faire des pages.
Là, c'est plutôt vers
l'IS. Commencer à faire des pages internet.
Bah, tu commences à coder quand il y a des sites comme Multimania qui arrivent, où là, tu t'échanges des bouts de code et tu fais faire de la neige sur ton écran, des trucs comme ça, tu commences à comprendre ce genre de choses. Et fin du lycée, début de la fac, ouais, je commence à faire des sites internet. Voilà, très, très bateau, tu vois, un peu d'HTML. Je crois que c'était même pas encore du CSS à l'époque. Non, le CSS, c'était plutôt en 2003-2004, où là, on commence à parler de CSS. Mais voilà, de l'HTML, basique. mais tu te rends pas compte de ce que c'est, quoi. Tu copies-colles, tu comprends pas. Voilà, et puis après, tu commences à comprendre la structure d'un site. Il faut, voilà, du head, machin, tac, tac, tac. Et puis voilà, quoi. C'est assez marrant, belle époque. Donc, tu vois, sur les bulletins, un peu mieux faire, j'avais 10, mais en vrai, sur les cours d'informatique, si on avait eu, ou des cours d'internet, j'aurais eu 25 sur 20, quoi. Je sais que j'étais plus fort que certains profs.
Ouais, surtout qu'à l'époque, c'était pas dur, parce que les profs, on prenait les profs de maths. Et
je me rappelle, un prof en terminale, il vient me voir, il me fait quelle ligne ADSL je dois prendre, il lui explique, machin, etc. Enfin, c'était mon prof de physique en plus, t'imagines. Toi, tu sais pas.
Ah, c'est marrant, parce que les gamins, ils faisaient des fortunes. Il y en a qui ont fait des fortunes dans les années 2000.
Mon associé a fait la fortune à 18 ans, et il commence à faire ses sites internet, machin, et il monte sa régie pub en 10 ans, quoi.
Et c'était vachement plus facile qu'aujourd'hui. Je veux dire, tu t'y mettais en HTML et tu faisais, tu vois. Aujourd'hui, il faut être ingénieur pour faire.
Effectivement, au niveau technologique, ça volait pas très haut. Après.
En une semaine, tu savais faire un site et tu t'y mettais à fond, quoi.
Évidemment, évidemment. Mais avec le référencement facile. Pour monter sur les pages Google, à un moment donné, il suffit de faire un background noir avec écrit en noir derrière avec tous les mots-clés, quoi. Ça, c'était une époque de ouf, mais très plaisant. Donc, tu vois. Moi, c'était le sport, le rugby et l'internet. Voilà.
Et après, du coup, une fois que tu as ton bac, tu fais quoi derrière?
Du coup, je vais à la fac à Évry, à côté, parce que ouais, la fac, elle est à côté, qu'est-ce que j'aime faire chier ailleurs? Et en fait, tu vois, là, tu t'aperçois avec le recul, c'est tout ton cursus scolaire, on ne t'apprend rien finalement. On ne t'apprend pas, quand tu es dans ces quartiers-là, ces villes-là, on ne va pas t'apprendre la puissance d'une prépa, on ne va pas t'apprendre ce qu'est HEC, ce qui est polytechnique. Ça, on va tout de suite te dire, c'est ton rêve et tu ne pourras pas le faire. Quoi.
Parce que
ça, tout de suite. Hein.
Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu apprends à la fac? Tu as pris quoi?
J'ai rien appris.
Non, mais tu avais pris quel cours?
Tech de co.
D'accord.
Ouais. J'ai rien appris. Je me rappelle de rien.
Ouais, je sais, j'ai fait ça aussi.
tu es noble. Voilà. Mais tu étais juste là pour faire tes cours, mais jamais ton cursus scolaire, on te dit que toi, tu peux faire l'excellence, aller chercher l'excellence. Voilà, c'était.
Parce que là, tu voulais faire polytechnique, tu voulais faire prépa.
Je ne sais pas ce que je voulais faire, mais c'est impossible de savoir ce que tu veux faire à cet âge-là, dans cet environnement-là. Voilà. Tu savais ce que tu voulais faire, surtout, je voulais qu'on ne me fasse pas chier, quoi. Comme tout le monde, en vrai. Mais on te. Tu vois, le rôle de modèle, de carrière, ce genre de choses, ça n'existe pas. Ou quand tu vas dans d'autres territoires français et de la région parisienne, tu as un modèle, tu vois, tu as des modèles de récit, des modèles de métiers, des gens qui vont t'ouvrir les horizons sur des métiers, etc. Enfin, nous, à un moment donné, après le bac, tu veux faire quoi comme métier? Le meilleur truc, c'était prendre le RERD, aller au salon aux portes de Versailles et faire le salon de l'étudiant, quoi. Alors, prendre tous les goodies et parler aux meufs, en fait. c'est ça, quoi.
Donc, tu fais tech de co et pendant ces 2 années-là, à part l'école, à part les cours, tu fais quoi?
Internet, la Photoshop et tout. Je fais du sport, rugby, je suis avec ma nana, je suis un mec normal de 20 piges, quoi. Donc,
ah, on a eu la même vie. Ouais.
Je raconte ta vie, non, d'ailleurs. Hein? C'est ta vie, non?
Bah, Photoshop, ouais. On faisait avec le journal du lycée, on photoshopait des trucs pour.
Donc, c'est ça, écoute. C'est ça, un mec normal. Et puis, voilà, enfin, j'ai une vie. J'ai une vie complètement normale jusqu'à aujourd'hui. C'est normal ce que je fais. Voilà.
Mais je veux dire, après tech de co, tu fais quoi?
Alors, la grande chance que j'ai eue, et ça, c'est vraiment un des gros coups de bol. À l'époque, en 2003-2004, la fac d'Evry est la première fac de France à lancer une licence en marketing et commerce sur Internet. Magnifique.
Du coup,
Internet.
Ça y va tout droit.
Ça y va tout droit. Et là, j'ai vraiment aimé cette année-là parce que Bah, tu vois, tu arrives en cours, tu fais de l'internet, quoi. Tu apprends le référencement, le business, le machin, l'e-commerce. C'est bien. Voilà, donc là, je m'éclate vraiment. Et après cette année-là, j'ai envie de continuer. Et
tu montes des projets déjà ou tu...
On ne monte pas de projet sérieux, évidemment. Tu fais tes TD, ce genre de choses. Mais ce n'est pas profond. Je n'avais pas cette longueur de vision, tu vois. C'est genre, on te dit, tu fais, quoi.
Ouais, t'étais pas dans l'esprit start-upper.
J'étais pas du tout un esprit entrepreneur et je comprenais le potentiel. Évidemment, je comprenais le potentiel de l'internet, mais je le comprenais pas pour moi, quoi. J'étais pas mûr. tout simplement, j'étais pas dans une zone de maturité intellectuelle et professionnelle pour faire ça. J'étais étudiant et puis je faisais mes devoirs et puis j'allais faire la fête avec mes potes et puis c'est tout quoi. Enfin, voilà, c'est une question de maturité. Certains sont extrêmement matures et très tôt. Moi, je l'ai été à 30 ans quoi.
Du coup, après ça ?
Et après ça, donc je veux continuer enfin étudier l'internet et puis je fais une année de l'école de commerce de césure, voilà, un truc un peu pérave comme beaucoup font pour meubler ses journées quoi. Et puis après là, je fais quand même le saut aux États-Unis et là je vais à UCLA où je fais des cours. Voilà, je prends des cours de marketing là-bas et c'est là-bas où tout mon prisme entrepreneurial a commencé à voir le jour. C'est-à-dire que là, tu vois des mecs qui se font vraiment beaucoup d'argent. Tu arrives à la fin de tes études, donc t'as cette barrière naturelle.
Tu sens que
tu commences à être dans l'impasse, quoi. Tu vois, hop, faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et tu vois des gens cool, quoi. Tu vois des gens cool, puis c'est Los Angeles. Et voilà. Là, je commence à avoir très envie de monter ma boîte un jour. Voilà. Parce que tu vois les jobs qui est à côté, ils sont super cool, hein, mais.
Et tu les vois où ça ? Qu'est-ce qui fait la différence entre Techdeco et Los Angeles ? Parce que Techdeco, à la base, normalement, c'est censé te donner envie de faire monter ton
ben
business.
Non, mais tu
sur la brochure.
Ben c'est la brochure, mais voilà.
Mais
encore,
qu'est-ce qui fait la différence
encore
avec
une fois,
Los Angeles
c'est...
ou comment ils arrivent à comment tu chopes
c'est,
une motivation
c'est la,
là-bas
c'est la différence entre une école moyenne et une grande école. Voilà. C'est la qualité des intervenants. Évidemment, ils sont tous top et je connais beaucoup de mes confrères qui donnent des cours, etc. Mais dans les grandes écoles, tu as l'excellence qui arrive. Donc, c'est des gens qui ont déjà réussi. Quand ils te disent quelque chose, c'est laser focus. Et moi, j'ai fait ça, j'ai gagné 500 millions de dollars. Ah ouais, d'accord. Là, tu es dans notre gros niveau, quoi. Et en France aussi, hein, quand tu as fait HEC, tu vas parler avec des gens qui ont dirigé des grosses boîtes, etc. Donc, mais dans les écoles de universitaires, secondaires, un peu moyennes, je ne veux pas dire que tu as des gens moyens. Évidemment, tu as des gens avec des grands cœurs et qui font du super taf. Mais au niveau professionnel, enfin c'est humain quoi. Quand je sais pas, tu te mets un joueur de foot amateur, on te ramène Cristiano Ronaldo, tu veux devenir Cristiano Ronaldo quoi. S'il te parle pendant 6 heures, tu veux devenir comme lui, d'accord. Et si on te met un joueur de national qui est à 3e division, tu gagnes de l'argent et c'est très bien, d'accord. Bah ça fait un peu moins rêver quoi. Tu vois, les tripes elles sortent un peu moins quoi. Voilà. Donc Los Angeles c'est ça. Tu vois des gens qui créent chez Google, des machins etc. qui font des belles vies, qui ont des belles maisons, et voilà, t'as envie de ça, quoi. Voilà, c'est... Puis on a grandi avec la série Beverly Hills, t'as envie de ça, quoi.
Et du coup, c'est ça, en fait, c'est l'envie que tu... Enfin, tu vois des gens qui ont réussi et qui te disent...
Ouais, je vois des gens
si je peux les toucher, c'est que je peux peut-être le faire aussi.
C'est quoi. Ça, en fait, tu vois des gens qui ont réussi, mais qui ont gardé une certaine simplicité et surtout qui puent la liberté, quoi. Tu vois que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Voilà. Bah, ça, c'est bien. Voilà.
Et comment tu te dis, bah, tiens, là, j'ai envie de devenir un patron libre, etc. Et je dis, bah, par contre, j'ai pas de réseau, j'ai pas de. Je suis
bah,
personne
déjà,
encore dans
ouais.
le milieu, j'ai pas de. Enfin,
bah, là, tu, c'est évident.
J'ai
que...
peut-être pas forcément de grandes idées.
C'est exactement ça, c'est tout ce que tu viens de dire. Mais tu sais une chose, c'est qu'il faut bosser dans la vie. Déjà, t'as pas le choix. Donc là, j'étais parti, je dis là, je vais bosser quoi. C'est-à-dire, moi, les 35 heures, je connais pas quoi. Je connais toujours pas. Mais faut bosser et puis faire les choses sérieusement, essayer de ne pas être un gros con au taf. Et puis voilà, tu bosses, t'as des résultats.
Tu reviens des États-Unis là. Du coup, tu as des rêves plein les yeux, plein la tête. Tu te dis, ah, c'est trop bien, le monde est grand, le monde est vaste. Et tu te retrouves à Orly. Quand tu rentres, tu fais quoi?
Ah bah là, bah, tu vas voir tes potes, tu respires un peu et un mois plus tard, tu vas chercher un taf quoi. Tu vas chercher un taf.
Ah, mais ça fait un gros décalage quand même quand tu vois le top, les gars. Et puis toi, tu dis, bon, allez, maintenant, il faut que je me trouve.
Ouais, mais eux, dans toutes les success stories américaines que j'ai entendues, que tout le monde connaît en vrai, et la plus connue, ça va être le garage d'Apple. Garage, voilà, ils ont commencé comme ça quoi. Donc à un moment donné, Enfin, t'arrives pas dans un bâtiment, t'appuies, hop, je vais au dernier étage et je sois le patron, quoi. À un moment donné, tu commences en bas, quoi. Voilà. Tu commences en bas. Et quand tu commences en bas, le plus important, c'est de bosser. Et en vrai, de dire jamais non, quoi. Moi, mes patrons, ils me demandent un truc, je faisais, quoi. Je faisais, je faisais, je faisais. Et peut-être qu'ils avaient l'impression de charger la mule, mais à chaque fois, j'acceptais et je faisais. Et puis voilà, ça donne de la confiance et des gens qui ont envie de te confier des projets. Et voilà, j'ai toujours été dans les projets assez cruciaux dans mon entreprise.
Dans les projets assez
Cruciaux, c'est-à-dire important.
cruciaux.
Voilà. Parce que ils sentaient en moi quelqu'un de confiance et surtout, j'allais tout faire de mode déterminé pour réussir, quoi.
Donc ça, c'est quand tu étais dans le marketing ou
Ouais,
dans...
tout ça, dans mes 5 années en tant qu'employé.
T'as
Voilà.
commencé à quel grade, à quel poste?
Chef de projet? Ouais,
Ouais.
même pas. Ouais,
Ouais, donc tu démarres chef de projet
même
junior,
pas.
ce qui
Je
est assez...
commence commercial. C'est-à-dire, je vendais des sites internet au début. Tu vois.
Oui, ce qui est très classique après une école de commerce.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Très classique. Et puis c'était une petite boîte, une start-up sympa où je suis resté 2 ans. J'ai eu l'occasion d'aller vivre à Aix-en-Provence avec. Voilà, c'était plutôt une belle période où j'apprends à vendre. Et c'est super important de savoir vendre. Voilà. Dans la vie, il faut savoir se vendre. Voilà. Et j'ai appris à vendre. Voilà. Donc ça, c'était une super école. Super école.
Donc là, tu te mets au boulot, tu commences
Je
avec
mets au
quelque chose
boulot
de...
et je vends. Voilà.
Voilà.
Je vends, ça se passe plutôt bien. Je ne suis pas le meilleur vendeur. Enfin, je ne suis pas le meilleur commercial, mais je suis de loin pas le plus mauvais vendeur. Voilà. Il y a une vraie nuance. Donc ça se passe super bien, en vrai. Et après, je remonte à Paris où je travaille dans une régie pub dans Internet qui était la boîte de mon associé. Voilà. Qui avait le même âge que moi.
Pardon?
Quel même âge que moi.
D'accord.
Voilà.
Et là, du coup, tu t'occupes un
Bah là,
poste plus
c'est.
d'encadrement,
Même
tu
pas.
toujours vendeur?
Non, ouais, de biz dev, beaucoup de biz dev, gestion de
C'est quoi
projet.
Biz Dev?
C'est de vendeur. C'est-à-dire que je vendais des espaces publicitaires, je monétisais des espaces publicitaires. J'allais chercher des deals, j'allais chercher des clients, j'allais chercher. Voilà. Assez 360 au niveau business. Et voilà, moi j'aime le business, quoi. Donc j'étais plutôt à l'aise. Et ça se passe bien. Et puis au bout de 2 ans, il revend sa boîte à Rentabilly Web, donc. Où là-bas, je reste 6 mois dans le même métier de biz dev. Et puis après.
Donc business et business developer, biz dev.
Voilà. Et puis après, la boîte où j'étais, donc Rentabilly Web, a voulu lancer un pivot de la boîte. C'est-à-dire, nous, on monétisait de l'audience avec de la pub. Maintenant, on va faire autre chose. Et ils ont monté une équipe de 4 personnes pour penser ça et exécuter l'idée. Et je fais partie de ces 4 personnes-là. Et moi, j'étais plutôt en charge du business et du marketing. Et on lance ça. Et ça s'est super bien passé, quoi. Voilà, c'est une boîte qui s'est fait racheter. Quasiment 300 millions d'euros par Natixis il y a quelques années, quoi. C'est cool.
Et pourquoi tu restes pas alors?
Parce que la boîte grossit, tu passes de 4 personnes à 100 personnes dans ton service, on commence à mettre des managers, c'était relou, quoi. Voilà, à un moment, tu parles au PDG, et d'un coup, tu as un DG, puis un directeur des opérations. Je dis, wow.
Et là, tu te dis finalement, j'ai pris de l'épaisseur et tout, je peux lancer mon propre truc.
C'est exactement ça. Je suis sorti de cette expérience-là, j'avais l'impression d'être chargé à bloc, quoi. C'est-à-dire, là, c'est mon tour, quoi. Voilà. Et c'était pas forcément le cas. Enfin, en termes de confiance, oui, mais après, affronter le terrain, voilà, tu te dis, ah d'accord, c'est pas que du business, du marketing, être entrepreneur, c'est aussi de la compta, c'est aussi là, c'est aussi du management, c'est aussi tout ça, quoi.
Ça t'a ralenti ça? Parce que si tu sais vendre et que tu as une bonne idée dans une boîte, c'est quand même la grosse partie
Ouais,
du
mais après,
boulot.
c'est ta boîte.
Ouais.
Et puis, il faut aller chercher tes associés, il faut aller chercher tes clients, il faut penser le produit, il faut tester, etc., etc. Enfin, c'est hyper. Les débuts d'une startup, n'importe laquelle, sont hyper demanding et très, très dur. Très dur.
Dur comment? Pourquoi?
Tu travailles tout le temps, tu déconnectes jamais. Donc, c'est dur socialement parce que t'as quand même, tu vis pas seul, quoi.
Ta femme te fait la gueule.
Ouais, ça peut être ça. Il y en a beaucoup qui perdent leur femme. Enfin, moi, j'accompagne les startups. Enfin, le nombre de jeunes qui lancent leur boîte avec leurs copines de fac et qui sont plus avec, il y en a beaucoup, quoi. Parce que c'est super dur, et puis faut jouer avec le manque de cash, tu vois. Enfin, le manque de cash dans une entreprise, c'est ce qui est le plus stressant. Donc, tu rajoutes ce gros stress de la fin du mois, tous les mois pendant 2 ans, plus tout ce qu'il y a à faire dans la boîte, parce qu'en vrai, t'as pas de thune pour payer un comptable, que machin, etc. Enfin, tu vois, y en a vite qui partent en burn-out ou qui abandonnent, quoi. Donc, ces 2 premières années d'entrepreneuriat, c'est très, très dur. Très dur. Et t'es jamais préparé à ça. Et là, il n'y a rien qui te prépare à ça. Il n'y a rien qui te prépare à ça, parce que toute ta vie, en termes d'éducation, et pour tout le monde, on nous prépare à aller dans un confort. On te prépare à avoir un métier. On te prépare à avoir une femme, des enfants, une maison, etc. Un vrai schéma.
Un salaire
Un salaire, tu vois,
fixe.
exactement, fixe. On te prépare à avoir un confort. Être entrepreneur, c'est aller vers l'inconfort et aimer être dans cette zone-là. Donc, c'est que des choses qui sont complètement antinomiques. Donc, en termes d'énergie, c'est hyper dur, quoi. Et donc, tu commences ça, et je commence cette boîte-là, après mon expérience de salarié, où là, tu te dis, OK, là, ça va être dur, et faut encaisser ça, quoi. Faut encaisser ça. Et c'est ce qui fait, en fait, aujourd'hui, pour moi, un bon entrepreneur et d'un mauvais, c'est cette résilience-là. Voilà, un bon entrepreneur est pour moi un résilient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'investis dans une entreprise, évidemment, je dois aimer le produit, mais je regarde le mec, quoi. Est-ce que ce mec-là, c'est un roseau, quoi? Tu vois, est-ce que le vent, il fait comme ça? Est-ce qu'il se brise à un moment donné? Voilà, si c'est un roseau, pour moi, c'est très bien. Donc, je vais essayer de chercher cette résilience-là.
À l'époque, quand tu te lances, t'es marié?
À
Non?
cette époque-là, je suis en couple. Et d'ailleurs, je suis encore avec elle et je vais me marier avec elle. Voilà.
D'accord, mais pas dans des enfants à l'époque?
Pas d'enfant à l'époque. Pas d'enfant à l'époque. Et mon premier enfant, je l'ai eu il y a 6 ans, quand on a lancé la belle vie.
Encore une période facile.
À la période. En fait, je sortais déjà d'une aventure entrepreneuriale qui était extrêmement dure pour toutes ces raisons-là. J'ai découvert le métier d'entrepreneur. C'est l'expérience qui m'a donné beaucoup de maturité, qui a été très dure. Mais en vrai, je me relance dans une boîte où il allait encore avoir 2 à 3 ans durs. Mais je ne me voyais pas faire marche arrière et redevenir et devenir salarié. Évidemment, j'ai rien contre les salariés, mais c'était pas moi, quoi. Donc, et puis j'avais envie de remonter une boîte et pas de rester sur un sur sur pas sur un échec, mais en tout cas rester sur ma faim. Je voulais pas avoir ce regret-là, quoi. Je me suis dit, bah là j'ai 33 ans, j'ai encore de la force, maintenant ou jamais, quoi. Et là j'y vais all-in, quoi. Voilà, là j'y vais all-in.
Ça veut dire quoi, Olin?
Enfin, là c'est je travaille 7 sur 7, de minimum 6 h du matin à 22 23 h. Parfois j'allais à Rungis à 3 h du matin, je revenais chez moi à 23 h. 7 sur 7 pendant 2 ans. Voilà. Les gens me disaient que j'étais complètement fou, que je bossais trop, qu'il fallait pas le faire parce que c'était beaucoup trop et que le risque était trop important et que je me désocialisais presque, tu vois. Qu'on me voyait plus. Et là, les gens, ils commencent à s'inquiéter pour toi, quoi. Là, t'es tout seul, en fait. T'es tout seul. En vrai, les personnes qui croient en toi, c'est ta famille proche, tes sœurs, mes sœurs, et pas toutes encore, tu vois. Ma mère, mais mon père, là, ils savent que là, je suis en train de devenir un bonhomme, quoi. Mais tout le reste, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sacrifices, quoi. Je voyais plus mes amis. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Voilà. Et quand tu le racontes comme ça, tu dis, ouais, c'est facile, mais essaie de te mettre. Voilà. C'est-à-dire que demain, je te dis, Richard, tu vas travailler 7 sur 7. De 6 h à 23 h, tu ne vois plus tes amis pendant 2 ans. Tu vas me dire, ah non, ouais, d'accord. Tu ne le feras pas, quoi. Et moi, je l'ai fait. Et en fait, mon associé l'a fait. Et tous les gens qui réussissent des grosses startups, j'ai l'impression qu'ils sont passés par cette période-là, quoi. Et c'est une vraie période où tu te découvres. parce que t'es à blanc, quoi. Quand tu manages, tu prends plus de pincettes. Quand les gens te parlent et qu'ils te disent bah, tu viens à ma soirée samedi, tu fais ah, non, je travaille dimanche à 6 heures. Ouais, mais non, mais tu travailles tout le temps, machin, tu penses plus à nous. Tu vois, les gens pensent que tu te désolidarises d'eux. Mais finalement, non, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu te bats avec tes tripes pour gagner ta liberté sur les 30 prochaines années. Voilà. C'est ça. Tu vois. Et je ne voyais pas beaucoup mes enfants. Et tu te dis, est-ce que j'arrête? Ou je n'ai pas vu mon gosse pendant 6 mois? Ou je continue encore un peu? Et je me dis, lui, il aura une vie de ouf. Tu vois, c'est lui l'Américain. Voilà. Et donc, moi, j'ai décidé ça. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. Évidemment, la boîte grossit. Je fais des vidéos avec Richard Détente. mais on n'est pas sorti de là encore. J'ai toujours cette rage-là, sauf que je suis un peu moins les mains dans le caca, mais mon esprit est complètement connecté à mon entreprise 7 sur 7, 24 sur 24, quoi.
Et comment tu fais pour... parce que moi, j'ai vécu un peu cette période aussi. Et comment tu fais avec ta femme, ta copine, pour que ça tienne? Parce que...
C'est très dur.
Quand tu lui dis, au bout de 2 ans, j'ai gagné... un an et demi, j'ai gagné 37 centimes. Mais ça va y aller.
c'est miraculeux, presque.
Comment tu...
Déjà, il y a un socle. C'est faut s'aimer, quoi. Faut s'aimer. Il faut se rappeler des bons souvenirs quand je bossais pas comme un forcené. Et il faut se connaître aussi très bien. C'est voilà. Enfin, évidemment, j'espère que c'est qu'un passage c'est qu'un passage dans cette vie-là. Et il se bat pour offrir une vie meilleure. Mais au quotidien, s'occuper seul des enfants en bas âge, pas avoir des fins de mois rondelettes. Enfin, il y a tous les voyants au vert pour avoir des doutes. Sur le couple, ils sont là, quoi. Là, ça clignote.
Si tu veux te faire virer, il n'y a pas mieux.
Faire virer, la perdre. À ce moment-là, il suffit d'un beau prince charmant et il prend ma famille et tout. Hein. Voilà. Donc, c'est miraculeux. Mais maintenant, ça va un petit peu mieux, comme je te l'ai dit. Et on va se marier l'année prochaine. Donc, voilà, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais en fait, ça a solidifié notre couple. Tu vois, passer par cette tempête-là. Et en vrai, dans les moments de doute, on doit se dire, franchement, on a mangé de la merde, quoi. Donc maintenant, ça va aller un peu mieux et ça sera que mieux.
Voilà. Merci beaucoup, Paul.
Ben, je t'en prie, Richard.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.